Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, ici votre animateur Jerry Alain. J'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine tout le monde. Notre invité de cette semaine, c'est nul autre que le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. Fait que là je sais, on a reçu un politicien, fait que là tout le monde, je vais vous demander, essayez de mettre les émotions de côté. Hein, laissez-vous aller dans le podcast, hein, laissez-vous tendez l'oreille et essayez d'écouter que c'est ça que vous aimez ou que vous aimez pas. Je pense que n'importe qui aime le Québec, qui aime l'histoire, va quand même aimer ce podcast-là, ok? Puis qu'est-ce que je suis vraiment content, c'est qu'on apprend un peu plus à connaître c'est qui Paul Saint-Pierre Plamondon, t'sais, parce qu'en entrevue de 10 minutes ou en petit extrait, ben, c'est rare qu'on peut apprendre à connaître vraiment quelqu'un. Fait que moi, j'ai vraiment beaucoup aimé qu'est-ce que j'ai appris de lui. On voit que c'est quelqu'un qui connaît vraiment de quoi qu'il parle. Hein? C'est quelqu'un qui est cultivé, qui est vraiment articulé. Il sait de quoi qu'il parle. Il connaît sa patente, est-ce comme qu'on pourrait dire en bon québécois. Fait que un gros merci à Paul Saint-Pierre Plamondon. Ça, juste avant que je vous laisse écouter le podcast, tout le monde, juste vous rappeler aussi, si vous aimez le podcast, vous voulez que ça continue, n'oubliez pas d'aller vous abonner au Patreon. Ça va faire en sorte que vous pouvez écouter tous les podcasts d'avance. Je vais recommencer à faire des lives dans pas long. Hein, il va y avoir un nouveau podcast que je suis en train de travailler avec Orange Le Sort aussi qui va être sur le Patreon. Hein, fait que si vous voulez voir ça, ça va être là. Ou sinon, ben c'est ça, hein, tu sais, c'est ça, si vous voulez m'encourager, mais vous pouvez pas le faire de façon financière, c'est vraiment correct, il y a aucun problème. Vous pouvez juste vous abonner à la chaîne YouTube, hein, laisser un petit thumbs up, laisser un petit commentaire positif, c'est tout le temps super apprécié. Cliquez sur la cloche pour faire sûr de rien manquer. Ou sinon, vous pouvez toujours vous abonner à mon compte Instagram, Jer Alain, à ma page Facebook, Jer Alain. C'est Jer de R, Alain de L. Ça va être super apprécié. Et aussi, un gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine. Alex The Voice, Boutique Bouchou, Quaticook, Éloi Blanchard, Gab au Jolipier, Michael Boulanger, Steve Baudouin alias Mofo et Jean-Nicolas Néron, le Québécois et non le Canadien. Fait qu'un gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine. Fait que sur ce, je vous souhaite un excellent podcast tout le monde. Essayez de pas vous chicaner d'un commentaire, là, tabarnak. À chaque fois que je reçois un politicien, la merde appointe tout le temps dans les commentaires. Bref, je vous aime tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Ciao! Fait que, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Je suis super content de recevoir mon nouvel invité, Paul Saint-Pierre Plamondon. Ça va bien?
Ça va super bien. Très heureux d'être ici.
Comme je te disais tout à l'heure, je suis très content de te recevoir. Je suis super content de t'avoir sur le podcast. Puis tu me disais que tu trouvais ça beau de voir que un influenceur, dont moi en présumé, affiche ses couleurs, ouais, en disant que, tu sais, moi j'ai pas peur de le dire, que je suis souverainiste. Puis même j'ai ça dans le cœur, là, tu sais. Fait que.
Tu m'as dit d'arrêter d'en parler parce qu'on en parlerait à la caméra.
Ouais, ouais, c'est ça, exact.
Tout de suite, ce que je t'ai dit, c'est un de mes plus gros défis. On a une idée qui est vraie, une idée qui est ancrée dans notre histoire. Ça dure depuis les Patriotes, c'est une quête qui est belle.
Mm-hmm.
Devenir un pays, exister à l'international, réparer des injustices, pas juste pour nous autres, pour les Autochtones. Mais je te disais spontanément, ce qui a changé, c'est qu'après 95, le financement du milieu culturel a changé parce que le fédéral s'est mis à octroyer de l'argent. Ils sont pas supposés, parce que ça, tout ce qui est culturel, c'est compétence du Québec.
Mm-hmm.
Mais leur plan, c'était pas de négocier ou de trouver une solution avec le Québec, c'était d'envoyer des sous là où il y a des influenceurs.
Mm-hmm.
Et on a vu graduellement, c'est un des facteurs, je te dis pas que c'est le seul, mais spontanément, quand on parlait de ça, je disais, le financement des universités puis de la culture par le fédéral a créé beaucoup de frilosité, là, beaucoup de crainte de s'exprimer sur les questions politiques.
Ah ouais.
Puis ça a beaucoup changé depuis 95. Donc, quand j'en vois des courageux qui disent, moi, là, mm-hmm, je suis convaincu et je suis transparent sur mes convictions. J'hésite pas à en parler. Mm-hmm. C'est sûr que c'est très important parce que ils sont de moins en moins nombreux, les gens qui s'expriment ouvertement sur le statut politique du Québec, sur notre destin national, ouais. sur l'avenir. Juste la discussion sur l'avenir qu'on veut, elle est de moins en moins présente.
Moi, je me considère pas comme quelqu'un genre de super intellectuel. Puis, tu sais, genre, c'est pas moi qui vais aller se débattre sur la place publique, là. Mais, tu sais, je pense que j'ai quand même le droit de le dire, là, tu sais, puis ça fait pas moi d'un esti d'abruti pour autant ou de quoi de même. Fait que moi, qui m'aime me suivent. Tu sais, moi, je pense que c'est une bonne cause. Quand j'entends du monde parler en ce sens-là, je trouve que ça fait du sens, moi, tabarnak. Fait que, tu sais, je suis pas en train de le défendre à coûte que coûte. Peut-être des fois quand je suis bien pacté, mais tu sais, le cœur, il va un peu plus. Mais
c'est une histoire de cœur. C'est une histoire de cœur. Si c'est juste une affaire d'intellectuel, premièrement, l'espace pour les arguments pour l'indépendance, il est difficile à trouver.
Ouais.
Mais c'est une histoire d'amour. C'est vraiment, est-ce que la vérité va gagner sur une culture du mensonge qui nous est imposée depuis longtemps? Est-ce que l'amour du Québec, dans ce qu'il a de différent, avec ses défauts puis ses qualités, est-ce que tout ça va un jour nous amener à se dire oui? Tu sais, se dire oui, il y a quoi de plus émotif? Moi, une des choses qui me rend le plus émotif quand je fais un discours, là, c'est quand je parle... Je demande aux gens de visualiser le soir qu'on va devenir un pays. À quel point ça va être beau, à quel point les gens vont pleurer, à quel point les jours qui vont suivre vont être d'une frénésie, là. Exister à l'ONU, avoir notre club de hockey, dans toutes les compétitions, avoir nos athlètes qui représentent nos couleurs. Aussi, je pense que c'est mettre de côté toutes sortes de questions sur l'identité, qui sont bien compliqués tant qu'on est dans le Canada, mais qui vont aller de soi le jour où on a notre pays. Mm-hmm. Moi, je pense, je suis convaincu, en fait, que l'idée qu'on est tous Québécois va aller de soi le jour où on a tous notre passeport québécois entre les mains, un peu comme on voit dans plein d'autres pays, alors que dans le Canada post-national de Justin Trudeau, on est comme tous des catégories, puis ça, je trouve que ça nous divise plus que ça nous unit. Mais visualiser ce moment-là, là, comment on va se sentir, qu'est-ce qui va arriver dans les semaines qui suivent, moi, ça me rend souvent émotif. C'est vraiment de l'amour, c'est vraiment de l'émotion. Mmh. C'est pas juste intellectuel. Fait que c'est pas une discussion pour intellectuel, notre avenir.
Mmh. Non, mais tu sais, les enjeux, mettons, de qui doit être débattu, tu sais, mettons, des affaires, je sais pas, hein, au point de vue économique, au point de vue agriculture.
Ça n'en prend,
oui. Tu sais, c'est ça. C'est là que je trouve que sont importants les scientifiques intellectuels. Ouais. C'est plus dans ce sens-là, je voulais y aller, mais genre, tout le monde a le droit à son opinion, puis c'est ça, là, tu sais. Puis, mais je t'écoutais parler, puis j'étais comme, tu sais, il faut vraiment. C'est beau à entendre, parce que... mais il faut être quand même très optimiste, tu sais, en ce moment. J'ai l'impression, parce que, tu sais, souvent, d'un fois, j'ai quasiment de l'air, est-ce d'un marginaux, est-ce de
c'est rendu marginal de penser que le Québec devrait décider lui-même de ses impôts.
Ben, moi, je trouve pas qu'on dirait que, par certains, on dirait. Ben,
c'était ça. Mais c'était ça, la stratégie après le référendum de 95. On l'a perdu de pas grand-chose ou on l'a peut-être gagné, en fait, s'il n'y avait pas eu de certaines manipulations du vote. Mais peu importe, le lendemain matin, c'est plate, mais la stratégie, c'était de marginaliser puis d'intimider les indépendantistes.
Ah ouais,
oui, c'est même pas caché, c'est pas une théorie là, obscure.
Ouais.
C'était ça l'intention de Jean Chrétien, c'est ça qu'il a mis en place. Et graduellement, bon, on a vu en effet une certaine marginalisation d'une idée qui est pourtant fondamentale, profondément ancrée dans l'histoire du Québec et profondément juste. Mm-hmm. C'est une idée qui est juste et nécessaire. Puis là, bon, au fur et à mesure qu'on voit notre déclin en termes de pouvoir dans le Canada, mais en termes linguistiques, culturels, là, j'espère, puis je le vois quand même dans la société civile, des gens qui se ressaisissent puis qui disent, là, est-ce que vraiment l'avenir que je veux donner aux prochaines générations, c'est celui là, d'un déclin graduel, comme tous les autres francophones dans toutes les autres provinces canadiennes?
C'est ça, puis qu'on a ce qu'on veut.
Puis si c'est pas ça qu'on veut, ben tout ça, est-ce que... on va y consentir avec peut-être un peu version CAC, là, c'est-à-dire enrobé dans du miel. Mm-hmm. Ou est-ce qu'on revient à la base? Est-ce qu'on reprend des discussions fondamentales? Donc, je ne sais pas s'il faut être optimiste ou faut juste avoir le sens du devoir. C'est mm-hmm. pas la même chose. Être optimiste ou jovialiste, c'est pas voir les choses en face. Avoir le sens du devoir, c'est regarder les choses en face, mais dire pour le bien de ma société puis pour le bien des autres générations, s'il y a une seule solution qui s'impose, je me fous des circonstances. Papineau disait « Fais ce que doit, advienne que pourra ». Puis c'était pas mal plus difficile d'être patriote à cette époque-là que celui en ce moment. Souvent, il y a des péquistes qui me disent, tu sais, des membres de longue date, ouais. qui me disent « Hey Paul, ça te prend du courage, lâche pas ». Puis je les fais rire toujours avec la même blague. Je leur dis « Écoute, dans les générations qui nous ont précédés, il y avait des gens pris dans une église à Saint-Eustache pendant que l'armée britannique s'en vient ». Il y a des gens qui ont montré plus de courage que ma génération. Là. Fait que juste dénoncer c'est, une idée qui va de soi, c'est un niveau de courage que moi, je trouve pas que ça me... Je fais pas pitié. Là.
Ouais, c'est ça. Dans le temps, le hashtag « fuck you », c'était le moins pire qu'être pendu dans ça.
Ben, tu sais... Je sais pas là.
Moi, c'est ça. Pour ceux qui te connaissent pas ou qui apprennent à te découvrir en ce moment... moi, tu sais, c'est ça, je savais, tu sais, t'es le chef du Parti québécois en ce moment, puis j'ai lu toutes tes études, toute la formation que t'as. Chris, t'as de la formation en esti, mon gars. Chris, un bac en droit civil, puis common law à l'Université McGill, puis maîtrise en administration des affaires à l'Université d'Oxford au Royaume-Uni. Puis certificat en droit international à l'Université de Lund en Suède. Fait que ça c'est...
J'ai travaillé en Bolivie, j'ai travaillé à l'OTAN en Belgique. En fait, j'étais jamais au Québec dans ma vingtaine.
Hey, fait que man, t'es...
C'est-tu quelque chose que j'ai remarqué?
T'as du background en esti, là.
Ouais, mais j'ai remarqué un truc. Ceux qui ont beaucoup voyagé, là, je te parle pas d'une semaine dans le sud, là. Mm-hmm. Ceux qui se sont essayés à s'intégrer dans une société à l'extérieur du Québec, ouais. qui sont revenus au Québec après... La grande majorité sont indépendantistes après. C'est quand... D'ailleurs, René Lévesque, c'est un bon exemple. Son journalisme, il y a plein de choses qu'il a faites qui l'a amené... Ben oui. Plus tu te rends compte du caractère unique du Québec, quand tu reviens, j'ai remarqué que ça attire beaucoup. Sur le plan de l'indépendantisme, là, il y a un lien entre les deux. Donc, à travers toutes ces expériences-là, j'ai comme posé un regard sur le Québec où je me disais... Il y a vraiment des choses qu'on fait bien, puis il y a vraiment des bouts de notre mentalité qui sont pas juste uniques, qui sont vraiment positives. Donc, peut-être c'est une des raisons de mon engagement envers une cause qui, peut-être pour l'instant, est pas aussi dominante qu'elle l'a été il y a 20 ans, mais qui est toujours aussi vraie, c'est que plus tu regardes... Moi, j'ai vécu au Danemark, puis je vivais dans une famille d'un pasteur luthérien en campagne, puis j'avais des poulets, j'avais 17 ans, puis il fallait que j'apprenne le danois. Puis tu regardes comment une société fonctionne avec un gros sens de l'équité envers les autres, une belle fierté de son drapeau, de son histoire. Puis c'est sûr que quand tu reviens au Québec, ben ça change. Ouais. Ça change ta perspective. Je poursuivais un régime corrompu en Bolivie, un ancien président de la Bolivie pour fraude et génocide pendant un bout. Puis quand tu reviens, puis c'est l'époque de Jean Charest, ben évidemment que tu es plus allergique à la corruption parce que tu arrives d'un pays, puis tu as travaillé dans un pays que la corruption a complètement ravagé. Donc, c'est sûr que plus tu vas à l'étranger puis tu regardes comment certains pays ont fait des choix ou ont fait d'autres choix, ça rehausse ton niveau d'engagement envers le Québec. Puis moi, j'en viens à la conclusion que on a vraiment quelque chose à bâtir puis qu'on serait vraiment plus heureux et fiers si on était un pays parce que nos caractéristiques positives ressortiraient davantage qu'en ce moment. C'est comme comprimé dans le Canada, nos intérêts économiques aussi, dans le sens que on négocie pas en fonction de nos intérêts. Donc, on n'existe pas. Plus on voyage, plus on revient puis on se dit « Mais pourquoi cet endroit-là n'existe pas à part entière? Pourquoi on fait pas des choix aussi simples? »
Mais c'est ça, c'est comme un pays dans un pays.
C'est un pays dans un pays, mais qui est quand même comprimé. Et largement méprisé par le reste de son pays. régulièrement.
Mm-hmm. Ben, on l'a vu de plus en plus, là, tu sais, dans les dernières années, tu sais, avec le débat fédéral, tu sais, le débat des chefs fédéraux, tu sais.
C'est un exemple.
Tu sais, il y en a un là, sinon le prof de...
Attaran, mon ami Attaran, mais même les médias se gênent pas pour publier des choses qui sont clairement anti-Québec, et ça dure depuis des décennies. Des fois, sur nos plaques, c'est marqué « je me souviens », là, mais il y a des bouts, des fois, j'ai l'impression qu'on est comme toujours dans le même film qui recommence. C'est comme le jour de la marmotte.
Ouais.
Mais ça fait des décennies, c'était vrai pour mon grand-père. Là. Donc
c'est quoi? C'est comme il se fait d'une autre façon maintenant? Tu sais, au lieu d'être le classique l'ouvrier qui travaille dans l'usine du propriétaire anglais.
Là. Ouais, c'est plus ça. C'est que... les théories de classification des gens par couleur de peau puis par religion deviennent la nouvelle doctrine pour dire qu'on n'est pas tous québécois puis qu'on a on est un peu au banc des accusés avant que ça commence, parce qu'aux yeux du Canada, le Québec sera toujours une société intolérante à chaque fois qu'elle choisit de faire un choix différent de sa doctrine, mais sa doctrine est fortement idéologique, là. Le Canada, c'est un endroit, quand tu compares avec le reste du monde, les débats qu'on a au Québec, ils existent dans un paquet de pays européens, il n'y a rien d'anormal. Mais dans l'ensemble du Canada, à chaque fois qu'on choisit, parce qu'évidemment notre situation est différente, notamment sur le plan linguistique, à chaque fois qu'on fait un choix différent de celui du Canada, le Canada qui se veut tolérant puis ouvert à la diversité est en fait très intolérant à notre diversité culturelle.
Mm-hmm.
Ils ont beaucoup de difficultés à concevoir qu'on pourrait faire un choix différent du leur et que ce serait pas le reflet du fait qu'on est une tribu retardée ou un groupe d'intolérants. Puis ces tribus, là, c'est un mot qui est utilisé. Là.
Mm-hmm.
Sur Facebook, j'ai repris une émission de CTV où il parlait du Québec puis de nos choix. Là, puis c'était vraiment caricatural. Donc...
Ah oui, il y avait, je l'avais vu.
C'était, un panel de...
C'est ça, d'une couple de ouais. chroniqueurs ou de, je sais pas trop, là.
Mais c'est rien de neuf, tout ça, là.
Ouais.
C'est ce qui a amené Parizeau, c'est ce qui a amené Lévesque, c'est ce qui a amené plein d'autres générations à se dire, mais ça marche pas. Mais oui, ça a pris une nouvelle saveur parce qu'il y a des idéologies de gauche radicale qui prennent plus d'espace, notamment dans les campus universitaires.
Ouais.
Et qui permettent à nouveau de compresser...
De
mettre sur la défensive l'existence linguistique et culturelle légitime de la nation québécoise.
C'est tout le temps le raccourci d'on est raciste.
C'est un procès. C'est un procès perpétuel. Et évidemment, ben, ça amène un paquet de jeunes à se dire, ben, moi, même si ultimement je suis d'accord avec l'indépendance du Québec, ben, je m'exprimerai plus parce que ça me tente pas d'avoir toute cette charge-là.
Mm-hmm.
J'avais une jeune péquiste récemment qui dénonçait que le simple fait de dire qu'elle est indépendantiste à l'UQAM, ben, ça lui vaut des accusations d'intolérance, de racisme, de l'intimidation, bref.
Ben ouais.
Donc, quand t'es rendu là, il y en a qui vont se dire, sais-tu, moi, je suis d'accord, là, mais j'ai d'autres choses à régler, je veux pas ce trouble-là, en plus.
Mm-hmm. Ou qui choisissent ses combats.
Qui choisissent leur combat.
Mm-hmm.
Puis il y en a d'autres qui se disent, moi, je suis assez passionné par cette idée-là pour ouvertement dire, je suis indépendantiste et je pense que, sur le fond, j'ai raison de dire ça.
Mm-hmm.
Puis que c'est que du positif, ce projet-là. Mais il y a une bonne charge d'intimidation et de diffamation. Puis bien honnêtement, j'adore ma job, mais le bout le plus dur, c'est le mépris constant. Et ça arrive jour 1 quand tu chausses les souliers du titre chef du Parti québécois. C'était tout aussi vrai pour des gens qui sont maintenant... Prends Mme Marois, comment elle est appréciée.
Mm-hmm.
Mais quand Mme Marois était chef du Parti québécois, là, c'était très lourd comment on la traitait. Comment c'était... Mais prends tous les chefs du Parti québécois, même l'évêque là, qu'on idéalise. Souvent, en fait, on s'en sert aussi pour faire du signalement moral. Là. L'évêque aurait pas voulu ça, etc.
Ouais.
Faut aller à l'espace René Lévesque en Gaspésie pour réaliser... Il y a une section caricature sur René Lévesque. C'est d'une méchanceté. C'est méprisant, le traitement de René Lévesque. Toute sa carrière, le gars a bien plus... On peut comprendre comment ce gars-là a fini avec des enjeux de santé puis avec un moral qui était miné.
Mm.
Il y a une charge très forte sur le Québec en général. Je pense que le Canada ne se gêne pas. En fait, c'est la seule minorité sur laquelle tu peux taper sans qu'il y ait de prix à payer.
Ouais, c'est ça.
Mais en plus, c'est que ça se rabat sur le Parti québécois.
Juste une petite parenthèse. Il y a une affaire caricaturale de René Lévesque, t'as dit?
Il y a une section, quand t'arrives à l'espace quoi, René Lévesque, il y a une section...
En Gaspésie, ça?
Ouais. On pourra donner l'adresse précise. Là.
Ben, j'y vois cet été. Il va faire
super bien fait, OK?
L'influenceur va faire un vlog là-dessus.
T'as une section cinéma, t'as une section où est-ce que tu te promènes dehors, mais t'as une section où tu peux consulter les caricatures sur René Lévesque. Puis ça permet de comprendre que l'histoire se répète de génération en génération. René Lévesque a porté sur ses épaules énormément de mépris et de méchanceté.
Mmh.
Après... Puis on l'a fait avec tous les chefs du Parti québécois, là. Le décès de Jacques Parizeau, le décès de Bernard Landry. Une fois qu'ils sont décédés, on ne dit que du bien de leur œuvre, puis on leur témoigne beaucoup d'amour. Mais moi, ça m'a beaucoup frappé à quel point il a pu y avoir de la méchanceté et du mépris gratuit envers un homme qui avait déjà accompli tellement.
Mm-hmm.
Comme journaliste, comme vulgarisateur, et ensuite, dans le cadre de la Révolution tranquille, sa feuille de route était... hyper solide. Mmh. Et pour autant, quand on regarde le traitement médiatique et le traitement du parti envers lui-même, il n'a pas assez proche d'être évincé comme chef pas longtemps avant d'être élu.
Non, ouais.
Pour la première fois, avant de faire élire un gouvernement du Parti québécois. Donc, c'est important aussi de passer un peu de temps à essayer de comprendre ces questions-là ont évolué comment dans notre histoire puis comment les générations qui nous ont précédés ont eu à peu près les mêmes défis qu'on a en ce moment. Pourquoi? Parce que tant que tu fais la même recette à gâteau, puis que tu mets exactement les mêmes ingrédients, bon, tu peux pas te surprendre que tu arrives encore à la case départ. Et il y a un peu ça avec la CAQ. C'est comme si on a une forme de lobotomie collective, là, puis on oublie ce qui s'est passé il y a pourtant quelques décennies. Puis là, on repart à zéro en disant « Hey, j'ai une bonne idée, on va faire des demandes au fédéral. » C'est comme si on n'a rien retenu. Puis que le film reprend comme le jour de la marmotte,
mm-hmm.
avec exactement les mêmes résultats, ils n'ont pas de gain. Ils nous ont promis un fédéralisme à saveur nationaliste qui fonctionnerait. Ça prend même pas 24 heures quand François Legault fait une demande pour que Justin Trudeau lui réponde un gros non, mais sans aucune gêne, sans aucune retenue. Là. Non. Et ça ira pas de mieux en mieux parce que notre poids démographique est appelé à diminuer. Le poids des francophones diminue partout.
Mm-hmm.
Donc, il est encore temps de se poser ces questions-là, mais il est surtout temps de passer en Gaspésie puis d'aller voir à certains endroits qu'est-ce que les générations qui nous ont précédés puis qui avaient les mêmes enjeux sur l'utilisation du français puis sur le pouvoir politique, à savoir que nos impôts s'en vont à Ottawa puis après, les décisions ne reflètent pas ce qu'on voudrait. Mais il y a des générations qui nous ont précédés qui ont vécu les mêmes choses. Puis je pense que c'est important... de faire de quoi avec la plaque qu'on a sur notre voiture, là, c'est marqué « Je me souviens ». C'est une bonne idée, des fois, de juste regarder ce qui s'est fait puis les conclusions qu'on devrait en tirer de ce que les générations précédentes ont vécu.
Fait que toi, t'as appris... Tu sais, maintenant, si on en revient avec ta formation, quand t'es allé justement en Bolivie,
ouais.
Puis t'étais procureur bénévole, en passant. En tout cas, ça, j'ai lu, là. Puis... ouais, fait que t'as beaucoup appris en étant là. Est-ce qu'à partir de là, t'étais souverainiste ou...
Ben, j'ai voté oui à 18 ans, c'était mon premier vote, donc mm-hmm. en 95, je suis né en 77. Puis après, j'étais pas souverainiste engagé. C'est pas tant la Bolivie qui m'a rendu fervent indépendantiste, c'est le fait que j'étais avocat dans les poursuites découlant du scandale des commandites.
T'étais avocat là-dedans, toi?
Oui.
Ah ouais?
Je peux pas en parler, parce que la base du travail d'avocat... C'est de dire, quand tu desserres un client, tu t'engages à garder confidentiel ce qu'il dit. Si ça n'existait pas,
ouais.
ce secret-là, les gens craindraient de parler ouvertement à leur avocat.
Mm-hmm.
Fait que c'est une règle très, très fondamentale. Ce qui fait que je peux rien dire, je peux rien faire.
Mm-hmm.
Mais je peux pas nier, c'est dans mon CV, je peux pas nier que j'ai travaillé dans les poursuites qui découlent du scandale des commandites pendant des années, puis que ça a eu un impact assez important parce que, écoute, je l'avais d'en face pendant longtemps.
Ben, est-ce qu'on peut dire que c'est ça qui a fait le résultat?
Il y a vraiment un lien.
Ouais.
Ah oui, parce que, en fait, la plupart des indépendantistes vraiment engagés, mm-hmm. ils ont un moment où ils sont devant le phénomène, puis ils se disent, mais ça n'a pas de maudit bon sens.
Mm-hmm.
Il y a des moments marquants pour tout le monde, là. Puis moi, c'est celui-là, entre autres. Puis, comme je te disais, le fait qu'en voyageant, quand je revenais, je me disais, c'est quand même bizarre qu'on soit si inusité et unique comme peuple, mais qu'on n'existe pas. C'est quand même inexplicable comme situation. Ça me trottait dans la tête. À chaque fois que je revenais, j'étais comme... C'est donc plate qu'on se soit pas dit oui puis qu'on ne nous donne pas le droit d'être plus... de rejaillir un peu plus sur le reste du monde.
Ouais.
D'être aussi pris, renfermé dans un Canada qui fait en sorte qu'on ne prend pas notre place avec la personnalité unique qu'on a, avec ce qu'on a de différent. Ouais.
Puis, ben c'est ça, là, tu sais, on le voit avec le déclin du français, là, tu sais, qui est de plus en plus important. Comment t'expliques ça? C'est quoi les sources de ça?
Ben, c'est la structure fédérale conjuguée à un changement démographique dans l'immigration. Tant que t'es dans une structure fédérale ou plusieurs entreprises fédérales, même la perception des gens, souvent je me fais répondre, on est au Canada, c'est un pays bilingue. Pour justifier, là, supposons, l'utilisation de l'anglais dans toutes sortes de circonstances. Donc le Canada crée un environnement où les attentes, c'est que une langue ou l'autre, c'est correct.
Mm-hmm.
Ce que ça donne, c'est comme à Ottawa, la fonction publique, c'est qu'à moyen long terme, tout le monde utilise l'anglais.
Ouais.
Parce que ceux qui n'ont pas maîtrisé le français, qui est une langue moins pesante, ben, impose l'anglais en disant « mais moi, je ne parle pas le français », fait que la rencontre mmh. commence, puis ça fait « good morning everyone », »,« bonjour tout le monde », tout se passe en anglais. Mmh. Donc, cet environnement-là de bilinguisme institutionnel, je parle pas de bilinguisme, là, apprendre une langue, là. Moi, j'en maîtrise 4,5, là. C'est super positif, maîtriser une langue. Mais mmh. le Canada impose l'utilisation des deux langues, crée même des politiciens qui parlent en bilingue. Donc, c'est sûr que si dans ce contexte-là, accueille beaucoup d'immigration et que cette immigration-là ne maîtrise pas le français avant d'arriver, ben les statistiques sont super claires. À peu près 1 sur 2 va évoluer en français à moyen long terme, puis l'autre moitié va choisir l'anglais. Donc, continue dans ce modèle-là pendant plusieurs décennies.
Ouais, au Québec,
tu as un recul graduel du français.
Mm-hmm.
Et là, ben, si tu le vois géographiquement, parce que l'immigration se concentre beaucoup, au Parti québécois, on a beaucoup parlé de régionalisation de l'immigration, entre autres parce que les besoins économiques se font vraiment sentir dans certaines régions. Mais c'est pas ça qui se produit, c'est que tu as une concentration de l'immigration dans la région de Montréal. Le Canada encourage également l'identité ethno-culturelle. Donc, les gens apprennent pas à se sentir québécois, même se sentent éloignés du Québec. Nous, au Parti québécois, on dit, mais pourquoi on n'accueillerait pas, en bonne et due forme, chaque Québécois qui nous a choisi en disant, bienvenue au Québec. Un accueil du Québec.
Mm-hmm.
Mais c'est pas ça qu'on fait, puis on se retrouve donc graduellement dans une situation, mais ça a eu lieu dans toutes les provinces canadiennes, là, ça. Rien, y a rien de différent. Plus ce modèle-là est maintenu, ben on voit un changement démographique qui va nous amener en dessous de la barre du 80% de francophones au Québec, ce qu'on n'aura pas vu depuis 150 ans. Donc devant ça, je pense qu'il faut avoir des discussions sereines et objectives sur comment est-ce qu'un Québec indépendant gérerait les mêmes questions de manière à avoir une approche durable qui intègre dans notre spécificité linguistique tous ceux qui nous choisissent.
Mm-hmm.
On a intérêt à réussir cette intégration-là, mais c'est pas ça le modèle canadien. Le modèle canadien, c'en est un de compartimenter, celui de compartimenter chaque groupe par catégorie. Ça peut être des catégories des groupes religieux, ça peut être des catégories de couleur de peau ou de culture nationale d'une autre nation, mais c'est un modèle complètement différent de celui que je pense qui est souhaité par la majorité des mm-hmm. Québécois.
Puis en plus, on le voit souvent, tu sais, j'avais entendu un reportage drôle, c'était drôle, c'était à Radio-Canada, ça parle, je me souviens plus c'est quoi le nom, mais tu sais, maintenant, c'était autant, tu sais, pas au point de vue professionnel, mais au point de vue, juste des fois, des relations amicales, tu sais, t'en as un groupe de 4 qui parlent français, puis sont capables de parler anglais, mais s'il y en a un qui arrive en anglais. Tout le monde parle anglais, tu sais.
C'est comme ça que la fonction publique canadienne fonctionne. Mm-hmm. C'est comme ça que dans les banques ou dans les aéroports, tout ce qui est contrôlé ou géré par le fédéral, on retrouve un affaiblissement du français, puis l'anglais s'impose comme langue commune.
C'est ça.
Puis c'est ça qui nous attend.
Ben ouais.
Si on change pas
les... Il y a rien de mal à ce groupe-là, mais si tu regardes ça à long terme, ben c'est ça.
Ça devient la norme.
Ben ça devient ça, la norme. On va se faire...
Donc à l'époque, à défaut d'avoir notre pays, mm-hmm. puis que la langue officielle soit le français, le Parti québécois a mis en œuvre la loi 101 qui faisait ce constat-là puis qui se disait ben, on va mettre des normes pour que la langue commune soit le français. Mais rappelons-nous qu'à l'époque, ils se sont fait traiter de nazis.
Ouais.
Ils se sont fait intimider énormément. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui reprennent le discours que la loi 101, c'est une loi raciste ou intolérante. En fait, n'importe quel choix qu'on va faire pour donner une durabilité à notre spécificité linguistique et culturelle, il y aura des gens au Canada et même au Québec qui reprennent le même discours là, pour dire que c'est de l'intolérance, c'est inacceptable. Puis si on suit ce discours-là, ben on est condamné au déclin. C'est un lent déclin. Je pense que c'est Falardeau qui disait c'est longtemps là, décliner puis mourir.
Ouais,
là.
C'est ça, un peuple qui meurt, c'est long, pénible.
C'est longtemps puis c'est pénible.
Ouais.
Donc là, on a un choix. Puis c'est le même dilemme, la même confrontation. Puis tantôt, tu disais, t'es optimiste. J'aime penser que c'est pas grave de faire des erreurs, puis que comme peuple, on est capable d'apprendre de nos erreurs, qu'on peut voir les référendums comme une trilogie, qu'on peut voir des épisodes encore bien plus héroïques. Pour la, il y a quelque chose de têtu quand même chez les Québécois, là. C'était improbable qu'on se dote d'une société qui parle encore français à travers toutes ces années-là dans ce régime britannique qui est devenu le Canada, là.
Mm-hmm.
Puis en même temps, il y a quelque chose en nous qui veut juste pas mettre la poque dans le net. Tu sais, tu bâtis le jeu, tu fais tout l'effort, le goaler, il est couché par terre. Faut juste que tu mettes la poque dans le net.
Ouais.
Pour vraiment mettre derrière toi là, des années d'injustice, mettre derrière nous des années d'insécurité.
Mm-hmm.
Pourquoi on jase en ce moment d'insécurité linguistique? Ben, c'est parce qu'on regarde les données, puis on regarde le système dans lequel on est, puis on est obligé de regarder la vérité en face. Mais le plus beau cadeau qu'on pourrait donner à la prochaine génération, c'est de les libérer de ces discussions-là. Mais pour une raison que je ne comprends pas, tant en 80, mais encore pire en 95, parce qu'on aurait... On avait la chance un peu de tirer des leçons de 80. Là. En 95, le filet était grand ouvert. On a décidé de ne pas tirer, de ne pas mettre la rondelle dans le filet. Donc, il y en a devant ça qui se disent, ben regarde, on va accepter qu'on a perdu, puis on va accepter notre sort.
De se faire assimiler.
Ouais. Disparaître graduellement dans un Canada qui n'a vraiment pas de respect pour la diversité qu'on incarne.
Mmh.
Sur le plan culturel et linguistique. Où tu te dis, il y a plusieurs choses admirables qu'on a faites. C'est admirable ce que les patriotes ont réussi dans des conditions qui menaçaient leur vie. C'est admirable l'espèce de culture canadienne-française qui a été capable de, contre toute attente, de maintenir une espèce de continuité dans notre mentalité, notre culture... évidemment la langue, c'est admirable d'avoir tenu deux référendums sans qu'on se tape sur la tête comme l'ont fait plein de pays dans le monde.
Donc,
les guerres civiles, la violence. Nous, au Québec, là, on est capable de tenir les mêmes débats. Il y a eu un peu de tricherie, mais il n'y a pas eu de violence. Il n'y a pas eu de débordement comme on l'a vu à bien des endroits, même en Europe. Il y en a plein des exemples tragiques. Nous, au Québec, on a été capable de gérer ça. Puis, on a obtenu grosso modo 50% en 95, donc si on prend un pas de recul et on part l'horloge à partir de 1837 ou même avant,
mm-hmm.
1763, si on retourne loin et on prend la mesure de tout ce parcours-là, ben il y a une façon de voir les choses où est-ce que tu te dis, ben c'est des étapes, ce sont des étapes, puis tout ça, faut avoir confiance que ça va finir dans quelque chose de juste, quelque chose de beau, quelque chose de un beau grand moment où toutes ces étapes-là ont du sens, trouvent leur sens. Parce que sinon, tout ça est insensé. Tous les efforts de générations précédentes deviennent absurdes. Puis là, là-dedans, il y a aussi la prise de conscience du sort pour les nations autochtones qui sont également pris dans le même régime qui ne bougera pas. Là. La loi sur les Indiens, à chaque fois, je me cogne la tête. Là.
Moi, ça existe encore.
Ben, voir si ça va changer dans le Canada. C'est un produit colonialiste. Le Canada, c'est ça. Puis ils ont beau faire des mises en scène puis des larmes de crocodile, là, ça change pas. Quel est le seul scénario où, pour également les nations autochtones, les choses changent? C'est le Québec qui dit « on brise l'ordre juridique du Canada, puis le lendemain matin, ben on a le loisir, puis on s'engage à négocier de nation à nation, parce qu'on le sait que vous êtes des nations qui ont vécu tout ce que vous avez vécu. Donc on va faire venir les Nations Unies, on va faire venir l'ONU, puis on va faire venir plein de gens pour nous conseiller puis nous amener à des négociations nation à nation qui fait que tous ces parcours-là trouvent une fin qui est juste, trouvent un caractère durable et heureux. Et c'est pas ça que le Canada nous réserve, c'est pas ça que le Canada a fait, c'est pas ça que le Canada fait en ce moment. Des fois, je me dis, pourquoi les gens voient pas à quel point c'est beau, à quel point ce serait beau, à quel point on serait heureux et fier de ça, être un des rares endroits qui arrive avec des solutions durables à des problèmes qui ont lieu quand même à d'autres endroits dans le monde. Donc, c'est ça, je sais pas si c'est être optimiste ou si c'est le sens des responsabilités, mais j'aime penser que l'existence des générations qui nous ont précédés a un sens. Puis que c'est comme n'importe quelle partie de hockey ou n'importe quelle décision qu'on a dans nos propres vies individuelles, c'est toujours entre nos mains. C'est toujours à nous de décider comment on réagit à des défis. Puis on a toujours le choix dans la vie de prendre une bonne décision au lieu de continuer à prendre la mauvaise décision. On a toujours ça entre les mains. Puis après, je peux rien garantir. Tu sais, je ne sais pas comment on va évoluer comme société, mais j'aime voir les prises de conscience récentes sur le français. Ça n'existait même pas il y a 5 ans. J'aime voir de plus en plus de personnes dire, sais-tu, là, moi, j'ai du temps pour l'indépendance du Québec, là, puis je me cache pas. Puis non, ça me tente pas de me faire intimider. Puis non, j'accepte pas le mépris. Parce que la cause que je sers, elle est juste. J'y crois. Puis j'ai droit au respect. Mais il y a ça à vaincre, j'ai l'impression. Beaucoup de mépris. Je te parlais du mépris envers le Parti québécois, mais le mépris envers la cause, en général, il existe. Puis ça va prendre des gens assez forts pour être debout puis dire, ben, tu peux m'en donner du mépris, tu peux essayer de m'intimider, mais je bronche pas. Puis il y a d'autres générations qui ont réussi ça avant nous. Je vois pas pourquoi on serait pas capable.
Ben, tu sais, tu as parlé du référendum de 95, puis tu sais, on peut apprendre de nos erreurs. Justement, qu'est-ce qu'on a appris du référendum? On a-tu appris quelque chose?
Qu'est-ce qu'on a appris de 95? On s'est réfugié dans le mensonge. C'est quoi Jean Charest? C'est pas ça. On l'a toujours bien élu, Jean Charest, là. C'est pas un cas fortuit. C'est pas une tornade qui est arrivée par... On a toujours bien choisi Jean Charest pendant longtemps. Il a démantelé à peu près tous les piliers de la société québécoise moderne. Et notre estime de soi aussi, il y a passé. Là, tu sais, quand t'es pogné dans la commission Charbonneau, là, comment tu vas avoir une bonne opinion ensuite de comment on est capable comme peuple de se gérer?
Quel pilier tu parles, mettons, qu'il a démantelé, tu dis?
Ben, c'est que ce que le PQ a fait beaucoup, parce que bon, on peut critiquer le Parti québécois d'avoir été un peu chancelant ou inconstant dans sa volonté de faire atterrir le pays, mais il y avait une partie du PQ aussi qui était bénéfique, c'était qu'on mettait en place des institutions pour que les régions décident par elles-mêmes, pour que les jeunes aient une voix, puis qu'on veille à la jeunesse, pour que nos aînés... c'est un parti quand même bienveillant, le PQ. Tellement bienveillant que des fois, j'ai l'impression que ce parti-là s'est mis à faire campagne plus là-dessus que pour sa raison d'être. Mais quand Jean Charest est arrivé, c'était la prolongation du camp du Nom. Là. Jean Charest était le camp du Nom. Il était là. Et dans l'intimidation de tout endroit, la suppression de toutes les sphères ou les institutions qui pouvaient potentiellement donner lieu à l'organisation de la pensée indépendantiste, structurer le mouvement, là, il y avait une mentalité de rouleau compresseur, mais de rouleau compresseur aussi de mesures sociales qui fait que les Québécois ont reculé là, pendant l'ère Charest. Mm-hmm. Notamment, je pense que la corruption qu'on a découvert dans la commission Charbonneau porte atteinte directement à notre estime de soi. Après, ça devient plus difficile pour un péquiste de dire, écoutez, on est capable, puis dans un Québec indépendant, on gérerait bien nos affaires. Parce que les observateurs regardent ça, puis ils se disent, ben, regarde dans quel état nous... Regarde comment on n'est même pas capable de gérer le ministère des Transports, la corruption là-dedans. Ça a fait reculer de beaucoup comment on se perçoit.
Oui.
Mais moi, comme indépendantiste, je fais le lien entre le camp du non, puis tout cet affaiblissement de certains ministères, de programmes sociaux fondamentaux, de capacité à gérer sans qu'il y ait de la corruption partout. Donc, c'est très triste. Puis je reviens à ta question. Qu'est-ce qu'on a appris de 95? Tant qu'on n'aura pas fait le choix de sortir d'une forme d'adolescence où on se plaint périodiquement de notre sort dans le Canada, mais on n'est pas prêt à aller prendre nos responsabilités, là, d'aller jusqu'au bout du raisonnement, tant qu'on demeure dans cette latence-là, on n'a rien retenu. 95, je suis désolé.
Ouais.
J'aimerais ça, tu sais, pouvoir dire, hey, on a vraiment tiré des leçons de... La seule leçon, je pense, qui politiquement peut être dit haut et fort, c'est qu'à tous ceux dont mes parents, c'est plate, là, mais à tous ceux dont mes parents qui ont voté non en 95 et qui pensaient que ça serait bon pour l'économie, que ça serait bon, qu'on trouverait une façon, le déclin de la position politique, du rapport de force, de nos intérêts linguistiques, économiques, le déclin du Québec qui a suivi 95, le déclin aussi de notre capacité à être fier d'être Québécois, là, il est éclatant. Et ça commence en 95. Ça commence le lendemain de 95, parce que comme je te disais tantôt, le Canada se dit, je négocierai pas avec eux, mais je vais te les affaiblir.
Mm-hmm.
Mais du côté aussi de ceux qui ont vécu la défaite, il y a un moment relativement traumatique. C'est comme une peine d'amour. Moi, j'en ai pleuré, j'avais juste 18 ans, mais je pleurais à chaudes larmes. Là, tu le sais que t'as un moment historique, tu le ressens, puis ça te glisse entre les doigts de pas grand-chose pour des raisons difficiles à expliquer également. Donc, tant qu'on n'aura pas décidé de tirer certaines leçons, dont celle que ce qui a suivi 95, c'est terrible. S'il avait fallu faire jouer le film de 95 à 2020 à tous les électeurs de 95 en disant « Voici le film non.
Mm-hmm. »
Puis là, t'expliques là, la prise de pouvoir par Jean Charest qui est dans le camp du non. Qu'est-ce qui arrive? Comment ça se décline? S'il avait fallu dire ça, puis montrer les chiffres sur le français, montrer ce qui nous est arrivé au niveau de nos intérêts économiques également, s'il avait fallu montrer ça, puis que Jacques Parizeau avait eu ça entre les mains en disant « Regardez le film du non, là, puis regardez l'autre film du oui. » On a gagné le championnat du monde en telle année, puis dans un conflit armé à tel endroit, on a été le pays qui a agi comme facilitateur pour trouver un engagement de paix. Puis
tu parles de quel pays, là?
On est dans une politique fiction.
Ah, oh, okay. Je pense qu'il y avait vraiment...
Non, mais n'importe quel conflit... Moi, je vois le Québec, c'est parce que dans mon imaginaire, puis je pense que c'est pas juste de l'imagination, c'est fondé sur notre personnalité. Je pense qu'on aurait une armée très réduite, mais on aurait un grand rôle diplomatique à jouer parce qu'on est un peu Joe Bontemps. Là. L'esprit québécois, il est beaucoup plus utile pour se jaser que pour prendre dans un rapport de force. Là. On sera jamais une armée dominante, on n'a aucun bagage de domination militaire. Là. On a été dominé toute notre histoire, mais je pense, je nous vois, moi, comme facilitateur dans des conflits. Mais bref, s'il y avait un film du non puis un film du oui, puis que l'électeur de 95 avait pu, si mes propres parents avaient su, il aurait voté oui, voyons donc. Fait que je peux pas croire que tous ces événements-là ne trouveront pas un sens un jour. Ça, ce serait vraiment absurde. Et comme à d'autres époques où il y a eu du découragement, ben c'est comment tu recrinques le monde puis tu dis arrivera le moment où tout ça a du sens. Puis où est-ce qu'il y a une justice.
Mm-hmm. Mais quel atout, ma tante, que le Parti québécois, tu sais, aurait aujourd'hui qu'il n'y avait pas dans le temps, tu sais, qui pourrait aider? Parce que, moi, parce qu'en même temps, il y a plus, dans le fond, deux questions, là. C'est, parce que moi, on dirait, je me dis, Chris, la première fois, c'était, tu sais, en 80, ça a été, genre quoi, 40%? Que, ouais. Puis après ça, c'était à 49, tu sais, ouais. Qui est quasiment 50.
Ouais.
Puis, je fais, ben, la troisième...
60?
Ben, ça va là-dedans? En plus, tu sais, avec tous les scandales qu'il y a eu, que par la suite t'as sorti, ça aurait aidé?
Ouais.
Fait que, ben, pourquoi qu'il n'y en a pas eu, esti, tu sais? Mais, c'est facile pour moi de poser la question, là, mais...
Ben, la question, c'est un peu ce qu'on discutait. Ce dont on discutait, c'est...
se sont mis à affaiblir.
Il y a une stratégie d'affaiblissement.
C'est ça.
De tout ce qui permet... Alors, regarde Radio-Canada. Le nid à souverainistes. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tassé le monde qui s'affichait puis qui parlait ouvertement, qui incarnait ces idées-là, puis on a vu une transformation de Radio-Canada qui aujourd'hui est rendu le porte-voix des idéologies puis des points de vue dominants dans le reste du Canada.
De l'Union canadienne.
Mais pas juste ça, de la doctrine trudeauiste. Ouais. Il y a eu une transformation à Radio-Canada comme il y a eu une transformation dans le milieu culturel puis dans les universités où ils ont dit... C'est la mentalité du scandale des commandites. J'ai de l'argent, en passant, c'est notre argent, là. Ils prélèvent l'argent chez nous, puis une fois qu'ils l'ont dans leur poche, au lieu de nous le renvoyer en santé, parce qu'ils sont mis à arrêter de dépenser dans certains endroits qui nous revenaient, ils sont mis à le dépenser à des endroits où, comme des commandites, si tu prends mon drapeau du Canada, puis tu répètes les préceptes du Canada post-national, ben voilà ton drapeau, puis voilà le chèque qui va avec. Une fois que tu as le chèque, par contre... Si tu veux continuer à avoir cet argent-là, je veux jamais t'entendre parler d'indépendance. Ça crée une espèce de hyper-prudence dans certains milieux qui, historiquement, étaient totalement engagés envers l'indépendance.
Ah ouais.
Pas qu'ils ne pensent pas. Tu sais, je me promène dans Marie-Victorin, là, des artistes, il y en a dans Marie-Vic. Là. Ils pensent.
Ouais.
Mais est-ce qu'ils vont être prêts à sortir? Ben là, tu as des conseils d'administration... du financement, toutes sortes de considérations où le fédéral a mis en œuvre sa stratégie, non pas pour négocier ou trouver un terrain d'entente avec le Québec, mais bien s'assurer. Puis c'est même pas caché, là, c'était volontairement transparent, supprimer cette idée-là avec notre propre argent.
Mais c'est ça.
C'est plate, mais c'est ça qui est arrivé, puis c'est ça qui continue à exercer une pression très forte sur le mouvement indépendantiste, parce que là, c'est vraiment un cheval, un lapin en termes de moyens. Là.
C'est quoi le monde? Moi, man, je suis super en tabarnak d'apprendre ça, puis ça c'est pas plus que ça, ou le monde s'en calisse, ou le monde...
Ben, c'est-à-dire que les médias... La vérité, c'est que le traitement médiatique de l'idée d'indépendance, c'est que c'est du vieux stock. N'importe quel média dans le monde, c'est pas propre au Québec.
Ouais.
Tu veux de la nouvelle?
Mm-hmm.
Le traitement médiatique accordé à l'indépendance, c'est « ouais, on le sait, t'es indépendantiste ». Mais je me suis essayé souvent dans Point de presse le matin, une grosse sortie là, où est-ce que je parle de l'indépendance puis de tel point, mais les chances que ça se transforme dans un article que tu vas lire demain matin, des fois on réussit, mais c'est somme toute très difficile de ramener cette idée-là dans l'espace public. Et donc, il va falloir innover, je pense, si on veut. J'ai ressorti les nouvelles pancartes du oui.
Mm-hmm.
Mais il va falloir innover dans notre manière d'avoir cette discussion-là. Puis c'est pour ça que les forums où est-ce qu'on a le temps de jaser ont beaucoup de valeur, parce qu'en général, ta clip, elle dure entre 5 et 15 secondes.
Ben, c'est
ça. T'existes à travers
ton
clip.
Extrait, là,
puis ça, c'est quand t'existes comme partie d'opposition, parce que dans les dernières années, on s'entend que l'espace est restreint pour des raisons qu'on peut comprendre, là, quand t'es en pandémie. Les gens parlent de ça. Mais bref, ce sont souvent des choses qui s'expliquent ou qui se discutent à travers plus qu'une clip de 15 secondes.
Ouais,
mais c'est un défi qui me trotte dans la tête souvent. Comment est-ce qu'on peut avoir des discussions intelligentes, complètes, alors que les formats ne nous permettent pas de rejoindre bien des gens, donne peu de temps aussi à ce genre de questions-là. Mais je vois un changement quand même. Je suis à nouveau optimiste. Je trouve que dans la chronique, je trouve que dans certaines sphères, la discussion reprend de l'espace. Ce que je voyais pas il y a 10 ans. Faut jamais prendre pour acquis que parce qu'une situation est comme ça en ce moment, que ça va être encore ça dans 5-10 ans. Tout peut changer. Donc peut-être qu'il va y avoir un appétit renouvelé à un certain moment pour qu'on puisse, dans l'espace public, faire des sorties ciblées sur la volonté précise, le spécifique, de faire atterrir le pays.
Ouais. Moi, en tout cas, j'essaie de travailler fort dans ce sens-là. Je fais mes extraits, j'invite des invités à en parler, à en jaser.
Ouais.
Puis, parce que c'est ça, moi je crois à ça, je trouve que c'est une astuce de bonne idée. Puis je trouve que ça va dans ce sens-là, tu sais. Puis je pense qu'il y a bien du monde qui sont un peu indécis, qui comprennent, sont pas réticents à l'idée, ils la comprennent pas trop, puis ils sont quand même bien dans... dans leur affaire, fait que, tu sais, puis ils sont occupés par la vie.
Ils sont surtout occupés par la vie.
Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'ils... Tu sais, c'est dans le fond, c'est genre, raconte-moi qu'est-ce que j'ai à gagner en le peu de temps possible.
Puis heureusement, depuis quelques années, là, la réponse à cette question-là est plus claire. Le français décline, ce serait pas le cas dans un Québec indépendant. Ça se comprend bien, puis c'est plus aigu. L'environnement puis les réchauffements climatiques, c'est important. Le Canada n'arrête pas d'investir notre argent dans les sables bitumineux de l'Alberta. Ça tue nos exportations économiquement, c'est pas une bonne chose. Mais également, c'est parce que ça nous coûte 2 milliards d'argent qu'on aurait mis ailleurs, comme dans la transformation de notre économie pour avoir une économie d'innovation verte.
Ah, ouais, c'est ça.
Tu sais, je trouve que par rapport à il y a 10 ans, les problèmes que crée le Canada dans nos vies sont plus précis, puis les réponses sont évidentes. Donc, exister à l'international dans une économie globalisée, pouvoir négocier en fonction de tes intérêts, pas celui du voisin. Il y a une couple de choses comme celle-là que je trouve que question-réponse, tu peux le faire rapidement. Puis à la prochaine campagne électorale, c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais essayer d'incarner le mieux possible, le plus directement possible, que cette idée-là, elle est bonne. Puis elle répond à des solutions pour des vrais problèmes. En plus d'être le plus beau moment qu'on aura jamais vécu. En plus de ça, en plus de toute l'histoire, la justice, problème-solution, c'est vraiment ça que c'est. Donc, on va voir. Mais c'est plus facile, je pense, d'en parler aujourd'hui qu'il y a 10 ans parce que les problèmes sont plus aigus.
Ouais, c'est ça. Puis, on se parlait avant ça. Asti, c'était où qu'on était? Ah, avec le référendum. Puis c'est ça, je t'avais dit, mettons, quel atout qu'on a aujourd'hui, ça serait tout ça ta réponse que la différence entre.
Ben, il y a plein d'éléments, là, mais rapidement. C'est moins risqué de faire l'indépendance. On est dans une économie globalisée. Donc, René Lévesque, lui, avait le fardeau de trouver quel marché. Puis, il essayait de trouver une souveraineté association pour qu'on puisse continuer.
Genre, donner un exemple de vers où on pourrait aller.
Oui, puis le Canada, évidemment, répondait non pour essayer de...
Mais c'est ça, dissuader.
De dissuader. On a plus aujourd'hui, là, le risque, on l'a vu avec le Brexit, on verra si l'Écosse le fait avant nous, mais le risque dans une économie mondialisée, là, c'est un marché, le Québec, puis il va rentrer dans les accords déjà très standards. Donc, le risque est moindre. Les problèmes générés par le Canada dans nos vies, le fait que c'est pas durable pour nous, c'est évident. Ce l'est plus que ce l'était. Le bilan depuis 95, comme je te disais tantôt, il est terrible. Mais surtout, j'ose espérer que d'une fois à l'autre, on apprend de nos erreurs. C'est pas le fait de faire une erreur, de faire le mauvais choix. L'important, c'est qu'on corrige puis qu'à un moment donné, on arrive, on aboutisse au bon résultat. Donc, j'ose espérer également que, comme dans le cas de mes parents, il y a des gens qui ont voté non en 95 puis qui voteraient oui en se disant là, c'est pas qu'on n'a pas essayé, c'est pas qu'on n'a pas été gentil, mais il faut se rendre à l'évidence puis il faut sortir de la latence dont je te parlais tantôt. Il faut
aussi peut-être laisser la chance, tu sais. Parce que tu fais bon, on a laissé la chance au camp du non, là on va peut-être laisser la chance au camp du oui.
Ouais, mais c'est parce que le fardeau, c'est que c'est toujours plus facile de dire non puis demeurer dans le statu quo.
C'est ça, c'est le changement qui
le fardeau est toujours sur les épaules de la personne qui propose un changement puis qui dit « dis-moi oui
».
C'est beaucoup plus simple de juste dire « écoute, je comprends, là, mais j'aime mieux demeurer dans ce que je connais déjà ».
Ouais.
Donc, c'est pas une bataille égale là-dessus non plus. Mm-hmm. Mais j'ose espérer qu'une fois que tu as essayé deux fois quelque chose, puis que le bilan est vraiment pathétique, ben, on gagne en maturité comme peuple. Puis on se dit, là, tous ensemble, on va se donner un autre projet de société. Puis ce que j'adore le plus dans ma job, c'est être dans un cégep ou une université pour parler de ce point-là. Mm-hmm. Parce que de leur point de vue à eux, il y a vraiment une possibilité dans un long livre avec plusieurs chapitres d'écrire un prochain chapitre qui est probablement le dernier chapitre du livre. C'est eux qui tiennent le crayon. Puis c'est avec eux que c'est plus le fun, le plus intéressant de jaser de la suite, parce que si t'as à peu près 20 ans, tu regardes l'avenir, mais tu te donnes le droit de rêver, tu te donnes peut-être davantage le droit de visualiser ce moment-là, parce que t'as pas connu la défaite, t'apportes pas. C'est dans cet environnement-là que j'aime le plus donner des conférences, puis leur parler, parce que les yeux deviennent très allumés.
Mm-hmm. Émerveillés.
Émerveillés, parce que eux, ils voient ça de manière plus...
Optimiste,
mais ils l'ont pas vécu 95. Et quand tu dis, il y a plusieurs chapitres passionnants à cette histoire-là, mais il y a un chapitre qui est pas écrit. C'est à vous le crayon.
Mm-hmm.
Tout de suite, on sent beaucoup, beaucoup d'intérêt, mais un regard qui est très allumé. Parizeau, d'ailleurs, faisait ça. Hein? Avant, pendant, après la politique, il était très, très animé par l'idée de constamment parler aux jeunes de ce tracé-là des chapitres précédents. Mm-hmm. En disant, là, c'est à vous de jouer.
Ben ouais.
C'est à vous de parler. Qu'est-ce que vous allez faire?
Moi, il y a une affaire que j'haïssais, quand les médias recevaient genre des indépendantistes. Faisaient, tu trouves pas c'est une vieille idée? C'est une vieille...
Bienvenue dans mon quotidien.
Puis moi, je trouve c'est la question. Je comprends pourquoi qu'il la pose, là, mais tu sais, elle est expirée, là, cette question-là. Là, tu sais, on s'en fout. Vas-y avec où tu veux t'en aller, là, tu sais, comme où tu le dis, tu sais. Je me souviens que moi, j'écoutais bien des documentaires de Pierre Falardeau, puis lui, c'est la même affaire. Il adorait aller parler dans les cégeps, puis il disait, « Chris, c'est juste là qu'on m'invite.
» Ouais.
Fait que, tu sais, en tout cas, puis moi, je suis pas surpris là, de voir qu'est-ce que tu me dis. Là,
mais c'est parce que si tu sais que sur le fond, t'as pas d'argument, puis que l'autre a raison, une technique efficace pour empêcher cet argumentaire-là de prendre de l'espace, c'est de le réduire, de le diffamer.
Mm-hmm. Ah, ça, c'est un sacré.
Parce que ça t'empêche de discuter du fond de la question. C'est vieux, c'est fini.
Mm-hmm.
On le sait. Ça t'empêche d'arriver dans le dialogue de fond, à savoir, ben, les faits, c'est ça. Puis on a raison dans cet argumentaire-là, à moins que vous ayez un argument qui tienne la route. Il n'y en a pas. Donc, ce qui reste, c'est l'intimidation, la diffamation, le mépris. Et c'est particulièrement aigu quand on incarne le Parti québécois. C'est clair que c'est une partie importante de la stratégie fédérale.
Ouais, ça, parce que quand t'en parlais tout à l'heure, tu parlais justement de ça. Puis tu sais, c'est sûr que quelqu'un qui écoute qu'est-ce qu'on se dit en ce moment, il va faire, ben là, t'es politicien, ça fait un peu partie de l'affaire, mais tout de ce que je comprends, c'est que en plus d'être politicien, t'es encore un double fardeau, genre, vu que l'idée d'avoir un pays est déjà...
stigmatisé.
C'est ça, juste ça, c'est déjà,
stigmatisé, mais même, je te dirais, c'est ça, c'est un plan de match. Quand t'as plus d'arguments, le bullying...
Ça y embarque.
C'est une approche qui est constante.
Ouais.
Puis il y a aussi un effet de cascade. Des fois, j'ai l'impression qu'au Québec... on reçoit quand même régulièrement une forme de mépris envers le Québec venant du Canada. Notre différence est pas bien acceptée, surtout quand on fait des choix différents, je t'en parlais tantôt. Puis dans la manière de recevoir ce mépris-là ou cette intimidation-là, il y en a, je pense, qui veulent s'en détacher, s'en libérer. Puis c'est comme s'ils relançaient ça vers les indépendantistes.
Mm-hmm.
C'est comme si on répétait certains patterns, certains comportements.
Ouais.
Qui pourtant sont un problème venant du Canada. On le répétait à l'intérieur de notre société. Une forme de... C'est ça, c'est une forme de mépris. chose qui n'existera plus, à mon avis, le jour où on a notre propre pays, les factions, les divisions qui sont générées par ces dynamiques-là vont, à mon avis, disparaître. Ou en tout cas, vont s'améliorer.
Mm. Fait que là, tu sais, tout ça découle de quand on parlait du déclin du français.
Ouais, c'est ça, on s'est jamais rendu à...
Parce qu'il y a un deuxième facteur aussi qui est la loi 101 pour, dans les cégeps, là, ouais. Dans le fond, c'est l'exode des étudiants français pour s'en aller dans les collèges anglophones ou aller étudier en anglais.
Là, exact.
T'sais. Ça, il y a plusieurs cégeps qui le dénoncent.
On est rendu à une trentaine.
Ben, c'est ça qui est beaucoup plus que la moitié, parce que c'est quoi, c'est 48, je pense, cégeps qu'il y a au Québec. En tout cas, bref, fait que, t'sais, il y en a beaucoup plus que la moitié qui le dénoncent. Eux-mêmes, des professeurs qui le dénoncent. Fait, ouais.
Ça a été très drôle parce que pour faire une loi, pour modifier une loi, il faut que tu fasses une commission où tout le monde peut être entendu, puis tu fais venir des experts. Puis là, chaque parti politique écoute, pose ses questions pour s'aider à prendre une position précise. Au final, il y a juste le Parti québécois qui trouve que le projet de loi 96 pour améliorer la loi 101 va pas assez loin. Mais le paradoxe, c'est qu'il y a le Parti québécois et tous les experts, tous les démographes qu'on a entendus sont tous venus dire, puis tu sais, des gens comme Guy Rocher, là, des monuments également là, de notre société, sont venus dire, on évalue les mesures qui sont sur la table en ce moment, puis faites-vous pas, comptez-vous pas d'histoire, ça ne renversera pas le déclin du français au Québec, particulièrement dans la région de Montréal. Par contre, si on... On ajoute une série de mesures, là. Le statut bilingue des villes, la loi 101 au cégep, améliorer également certains éléments de la langue du travail, entre autres les entreprises à charte fédérale qui échappent en ce moment complètement à la loi 101. S'il y a certaines choses de plus qu'on fait, ben là, peut-être qu'on peut au moins stabiliser la situation. Il y a évidemment la question de l'immigration, à savoir est-ce qu'on accueille des immigrants francophones ou pas. Mm-hmm. C'est une variable importante. Donc, on se retrouve un peu seul à vouloir la loi 101 au cégep et d'autres mesures. Et en même temps, on parle d'indépendance en se disant, ben, on veut être un pays. Je pense que ça, évidemment, ça aiderait énormément la langue française. Mais dans l'intervalle, on veut à tout le moins renverser le déclin là, parce qu'à ce rythme-là, ça va aller quand même assez vite.
Mm-hmm. En plus, avec le vieillissement de la population, tu sais, s'il y a de plus en plus d'immigrants qui parlent, qui ont le choix de parler anglais, de, c'est sûr et certain que ça, c'est sûr et certain que ça s'en va vers.
Ouais, puis il y a le problème de la masse critique aussi. C'est que des fois ça s'accélère plus vite que tu penses. Si dans un quartier donné, dans une partie de Montréal au complet, il y a de moins en moins de traces du français, même quelqu'un qui choisit le Québec et qui voudrait l'apprendre va se retrouver dans une situation où en fait il y a plus de contact suffisant avec cette langue-là puis la culture québécoise pour avoir une interaction mm-hmm. qui te permet de l'apprendre. Il y a un moment où ça devient impossible. C'est un peu le problème bêta et VHS. Là, ça me rajeunit pas, mais si tu as deux technologies puis à un moment donné, tout le monde est rendu avec un VHS, tu as beau avoir des cassettes bêta, ça marche pas. Mm-hmm. Donc, tu vas finir par te dire, ben, je vais mettre aux poubelles mon bêta puis je vais m'acheter moi aussi un VHS. Les mêmes choses avec les technologies plus récentes ont lieu. Il y a toujours une concurrence à un moment donné entre deux technologies équivalentes.
Ouais.
Puis tu arrives dans une situation où il n'y a pas de masse critique de celle que tu utilises.
Moi, ça serait le DVD puis le Blu-ray.
Le Blu-ray, le DVD, plus récemment, un média social versus l'autre, MySpace versus... Mm-hmm. Ça arrive tout le temps, ces dilemmes-là. Mm-hmm. Puis je pense qu'il faut pas sous-estimer que quand tu arrives à un point où le français est pas utilisé dans certaines parties de Montréal, tu as une accélération du phénomène où la personne allophone va évidemment choisir l'anglais parce que même si la personne voudrait, il y a juste pas de contact. Mm-hmm. Puis c'est ça qu'on a vu dans d'autres provinces canadiennes, c'est que il y a un moment donné, il y a pas de masse critique.
Mm-hmm. Fait que okay. Ben, en tout cas, moi je trouve que c'est vraiment comme des sujets importants à jaser, puis qui d'autre de mieux que le chef du Parti québécois pour venir en jaser.
C'est ça ma job, puis quand j'ai l'occasion d'en jaser pour la peine.
Ouais, ça, puis qu'on te laisse le temps.
Ouais, puis on se laisse aussi le temps d'imaginer d'autres choses. C'est rare l'espace pour visualiser une société meilleure de ce temps-ci. C'est pas évident parce que les gens visualisent pas mal le pire.
Ouais.
C'est pas une époque optimiste, là. J'ai l'air un peu d'être le seul optimiste dans une époque où, même sur le plan de l'environnement, là, il y a des gens qui ont de l'air à accepter que ça va chirer. Mm. Moi, je pense qu'il faut vraiment choisir l'espoir. Tout le temps. Si tu as le choix, choisir l'espoir, même si c'est pas évident, entre choisir l'espoir ou accepter le déclin, choisir le pessimisme, il me semble que juste pour notre santé mentale, là,
ouais.
Puis pour les autres générations, choisir l'espoir.
Moi, j'ai une question, c'est parce qu'on dirait que là, le gros problème, attends, avec tous ceux qui rêvent d'indépendance, c'est qu'il y a comme. Il y a plusieurs, attends, militants ou défenseurs, puis qui sont, se retrouvent divisés, tu sais. Est-ce qu'il y aurait une façon, mettons, de toutes les rassembler, de s'unir, tu sais, comme QS, Québec solidaire, se dit souverainiste. Est-ce qu'il y aurait une façon de tout unir, justement, pour arriver au même...
Ça semble improbable. Commun. Ça semble improbable. C'est parce que, du côté de Québec solidaire, au moins la moitié de leur électorat est en fait fédéraliste. On le mesure d'un sondage à l'autre. L'autre élément également, c'est que Québec solidaire, à la fin de son programme, c'est marqué indépendance, mais c'est l'indépendance dans les conditions de leur projet de société. Il y a vraiment plusieurs conditions.
Ouais.
Ils ont une vision très précise de la société qu'ils veulent. Alors que dans une société, il y a des gens à droite, il y a des gens à gauche, il y a des gens qui pensent toutes sortes de choses sur plein de sujets. Donc, si on veut que l'indépendance ait lieu, faut que n'importe qui est d'accord avec l'idée du oui, peu importe nos désaccords sur le reste, faut qu'on puisse juste voter oui, puis s'entendre au moins là-dessus. Même le processus de Québec solidaire vers l'indépendance est hallucinant, là. Ils disent, on va convoquer tout le monde, dont les fédéralistes, on va faire une constitution, on va essayer de s'entendre sur chaque point, puis ensuite, on va voter sur cette constitution-là. Mais t'imagines comment, évidemment, l'impact, c'est... Supposons que moi, je suis en désaccord sur tel point. Prends la laïcité, là, l'exemple parfait. Là.
Mm-hmm.
Ben, c'est marqué quelque chose sur la laïcité, puis moi, je suis pas d'accord. Ben, la personne va voter non. Pourtant, cette personne-là était d'accord avec l'idée générale qu'on devrait prendre nos propres décisions. Donc, je suis obligé de conclure que on a notre part à faire au Parti québécois, c'est-à-dire assumer pleinement, de manière frontale, directe, le fait qu'on veut qu'un pays aboutisse, qu'on veut que le projet fonctionne.
Ah, c'est sûr.
Puis dire aux gens, si vous êtes d'accord avec cette idée-là, même si la CAQ vous dit que c'est fini, même si QS vous dit que c'est à condition d'un projet de gauche... je sais pas comment qualifier cette gauche-là, là, orangiste, puis que c'est ça le seul chemin vers l'indépendance. Nous, on vous dit, là, si vous êtes d'accord avec cette idée-là puis vous voulez qu'elle aboutisse, qu'elle ait une pérennité, nous, c'est qu'on l'assume puis on le met de l'avant puis on va bien le mettre de l'avant. Je pense que c'est la seule solution parce qu'on a quand même comme société exploré là, toutes sortes de possibilités de collaboration entre les partis. Dans le cas du Parti québécois, on a fini avec des négociations avec Québec solidaire où on se faisait traiter de raciste.
Mm.
Comment est-ce que moi, comme chef, après, je peux me retourner à mes membres et dire « Hey, j'ai une bonne idée, on va recommencer ce film-là. » Je peux pas, là. Donc, on va l'assumer totalement. On va dire aux gens « C'est important. La langue française est importante. Encore là, on est très unique parce qu'on veut aller plus loin. » On est unique sur d'autres questions d'équité sociale. Puis pour toutes ces raisons-là, si vous êtes d'accord puis vous voulez que ces idées-là vivent et prennent plus d'espace, encouragez-nous.
Souvent, on l'entend souvent, là, celle-là de la péréquation. C'est « Ouais, mais on gagne de l'argent avec la péréquation.
Ouais. »
Tu peux-tu... Le...
Vulgariser, c'est quoi qui arrive pour vrai?
Ouais, c'est ça. Tu sais, pour leur faire donc, un peu pharmacie.
Ouais. Ben voici là, si à la maison vous avez des gens péréquation, voici quoi leur répondre. Quand tu as une unité économique très grand, le problème c'est que c'est difficile faire un arbitrage entre les activités économiques de chaque province. L'activité économique en Alberta, c'est le pétrole. Ça génère des profits pour l'État canadien, oui. Mais ça génère aussi une pression à la hausse sur la devise canadienne. Le dollar canadien est élevé parce qu'il est dopé par le pétrole. Quand le pétrole canadien s'est mis à s'accélérer, les entreprises manufacturières du Québec ont mangé la claque. Pourquoi? Parce que si le Québec était un pays, sa devise serait plus basse, donc ça favoriserait les exportations. Mais si tu fais beaucoup de pétrole, tu hausses la valeur de la devise et donc ça tue nos exportations. Ce que le Canada répond à ça, c'est « Ouais, peut-être que je nuis à ton économie avec cette activité-là, mais je vais t'envoyer un chèque. » Deux problèmes. Le problème, c'est que le gouvernement du Canada, c'est pas que la péréquation, c'est tous les impôts qu'il perçoit. Puis quand on se demande comment il dépense l'argent, il faut prendre la péréquation et les investissements directs. C'est quoi un investissement direct? C'est quand tu encourages une entreprise puis tu dis « Hey, tu veux-tu une subvention? Je t'adonne. » Quand on mesure les investissements directs et la péréquation, c'est pas si avantageux que ça. Mais quand on ajoute le fait que notre économie est atrophiée, comme désavantagée par d'autres activités économiques qui sont pas les nôtres, quand on ajoute à ça que quand on s'en va négocier un accord international puis que nos industries auraient un intérêt quelconque, mais que le reste du Canada a pas cet intérêt-là, toutes les fois là, que l'intérêt du Québec a été jeté comme un token de fin de négociation, là, quand tu ajoutes tout ça, c'est une très mauvaise idée de ne pas gérer toi-même tes affaires. C'est une très mauvaise idée d'être dépendant d'une redevance d'un pays qui ne décide pas en fonction de tes intérêts parce que tu n'es pas capable d'adopter la meilleure stratégie pour toi-même.
C'est tout le temps à leurs conditions aussi.
Ben oui, dans un ensemble où est-ce que tu pèses pas lourd?
Ouais.
Tu pèses à peine 20% de l'équation.
Mm-hmm.
Puis avec toute l'historique qu'on connaît, non, c'est pas dans notre avantage économique. Et tu sais, quand je parle de s'affranchir d'une forme d'adolescence ou de latence, faut avoir ce courage-là de dire c'est certain, prenez vos vies personnelles, là, entre gérer toi-même ton budget ou laisser ton voisin gérer ton argent, la réponse est évidente.
Mm-hmm.
Puis cette redevance-là, comme je te dis, quand tu mets tout dans le panier, elle pèse pas lourd. Puis avec le déclin du pétrole aussi, c'est parce que ça nous ralentit. Nous, on a intérêt à aller dans les énergies vertes puis avoir une concurrence, un avantage concurrentiel à l'international avec nos propres entreprises.
Ben ouais,
le Canada reste pogné dans le pétrole. Puis à un moment donné, ça va finir cette affaire-là.
Mm-hmm.
Donc, faut pas non plus visualiser que le pétrole canadien va générer de la péréquation pour toujours. Là. C'est à la fin de ce cycle-là. Mais nous, en ce moment, notre argent va là-dedans au lieu d'aller dans nos entreprises pour qu'on soit concurrentiel. Ça ne fonctionne pas. Donc, c'est à nouveau, c'est des explications partielles pour décourager les gens d'être courageux puis de prendre leurs responsabilités.
Ouais. C'est ça, puis dire des demi-vérités. Là.
C'est des demi-vérités.
C'est ça, tu sais, on va dire, ouais, on va donner du cash, mais il ne dit pas l'autre partie.
Mais c'est comme les camions de la Brinks.
Mm.
Tu sais, quand je dis que les autres générations, c'est toujours le même film. Quand tu mets en scène des camions pleins d'argent qui quittent le Québec parce que l'idée d'indépendance prend trop de place, c'est la même technique.
Tu veux-tu expliquer ça? Parce que tu m'as un peu perdu.
Les camions de la Brinks, c'était une mise en scène. Il faudrait qu'on trouve la date, là. C'est dans les années 70.
OK.
Une mise en scène pour faire peur aux électeurs, où on simulait que les banques canadiennes, parce qu'elles sont toutes contrôlées à Toronto, à part Desjardins, là,
ouais.
Les banques canadiennes, c'est Toronto, puis ils ont une succursale à Montréal.
Okay.
Ils se sont fait une stratégie, puis ils se sont dit, on va simuler que les camions remplis d'argent quittent le Québec tellement la menace indépendantiste va créer l'effondrement de notre économie.
Ouais. Pour faire accroire.
Pour faire accroire.
Que l'argent s'en va.
Ben oui, il y en a plein des épisodes comme ça.
Ah ouais.
Ouais ouais.
Faut voir pas ça.
Ah oui, camion de la Brinks, on retrouvera l'année là, j'ai un blanc de mémoire sur l'année précise mais confort et l'indifférence, le documentaire l'as-tu vu?
Non,
faut que tu vois ça également. Il y a une dame qui dit dans le processus référendaire de 1980. Puis il y a une dame qui dit avec beaucoup de mépris, est-ce qu'on mord la main qui nous nourrit? Est-ce qu'on fait ça? Est-ce que Et on voit que c'est très frustrant quand on regarde ça avec le recul parce qu'on se dit, c'est toujours le même pattern qui se répète, c'est que c'est notre argent, il se ramasse à Ottawa, puis ensuite ça se retourne contre nous.
Mm-hmm.
Parce qu'on n'a pas le contrôle sur cet argent-là, puis on se fait dire, ben récemment, là, je me fais dire sur Twitter hier, Mitch Garber, aie plus de respect. parce que cet argent, c'est le Canada qui te fait vivre. Ouais. C'est le Canada, puis un autre qui dit, l'armée canadienne, tu penses que tu n'avais pas de besoin pendant la pandémie? Un instant, c'est notre argent. C'est Ottawa qui pige dans notre poche. Puis ensuite, on se fait répondre, comment oses-tu remettre en question cette bébelle colonialiste-là qu'est le Canada, alors qu'ils te font tout ça pour toi? Ils font pas ça pour moi. Ils ont pris ça dans ma poche.
Mm-hmm.
Voir si je serais pas capable moi-même de prendre cette même argent-là puis de faire la même chose à Québec.
Dans l'intérêt du Québec.
Mais de génération en génération, ça ne change pas.
Ouais.
Notre argent se tourne contre nous.
Mm-hmm.
Se tourne contre notre démarche.
Dans les yeux de ce monde.
Ben oui. Les personnes âgées, durant les référendums, qu'est-ce qu'ils se sont fait dire? Ils se sont fait dire, ben, t'auras plus de chèque pour ta retraite. T'auras plus d'argent. Qu'est-ce que les fonctionnaires se sont fait dire? Ben, t'auras plus de job.
Puis qu'est-ce qui aurait arrivé si, mettons, le camp dit oui, l'a remporté?
Ben, il y a mille et une solutions. Évidemment qu'on est une économie autonome, puis que les ajustements se font, puis c'est la fin des dédoublements, donc on sauverait de l'argent. Parce que là, on fait tout en double.
Mm-hmm.
Mais je veux revenir à la peur, puis le fait que ça se répète d'une génération
comme
à l'autre.
Des cycles.
Gandhi disait... En fait, Gandhi, c'est le champion du monde par excellence, là, parce que c'est le seul à avoir réussi à sortir de l'Empire britannique avec une approche parfaitement pacifique. Et je pense que c'est un défi, l'Empire britannique, parce que c'est pas des formes d'oppression qui s'apparentent à une violence évidente. D'autres empires coloniaux ont été beaucoup plus violents. Je pense que l'Angleterre, pour y avoir vécu un an et demi, ils ont une mentalité où c'est comme un cadeau de se faire donner l'héritage britannique, et ils vont être très habiles à te faire comprendre que si c'était pas de leur héritage et de leur grandeur, ben tu serais probablement pauvre, mais grâce à leur régime. Donc, ce que ça veut dire pour la peur, c'est que c'est toujours le même argument. Si tu sors de mon régime, si tu sors de l'Empire britannique, le pire va t'arriver. La pauvreté, les sauterelles, les tornades. Mm-hmm. Ils ont fait ça en Écosse. Même argument. Et Gandhi, lui, a dit, il n'y a rien de pire que la peur. Il n'y a pas de sentiment plus contre-productif et dangereux pour l'humanité que la peur. Parce qu'on arrête de réfléchir. Donc, c'est pour ça que Parizeau parlait beaucoup de peur. Il disait, faut sortir de la peur. Puis même en ce moment, au Parti des Québécois, des fois, j'ai l'impression qu'il faut que je convainque notre organisation de se libérer de la peur. Puis c'est ça qui nous attend pour les prochaines fois.
Mm-hmm.
La peur va être le plan de match principal, va occuper tout l'espace. C'est ça qu'ils ont fait à chaque étape. Ils ont envoyé des conseillers en Écosse, pour l'Écosse, en disant, voici le plan de match si vous voulez te gagner. Faites leur peur. Donc, l'énigme, je reviens à ta question de tantôt, qu'est-ce qu'on a appris de 95, puis qu'est-ce qui est l'avenir? Puis l'énigme qu'on doit solutionner, c'est comment sortir de la peur. Comment, comme société, se libérer de la peur pour se tourner vers la bienveillance. Puis là, on sort complètement de la politique. Gandhi était d'ailleurs très loin de la politique. La place de la spiritualité chez Gandhi est indéniable. Sa pensée s'élève complètement. En passant, j'ai zéro la prétention là, d'être Gandhi ou d'être approché.
Non, je n'avais pas pris.
Mais ça m'intéresse. Je trouve ça super intéressant.
C'est inspirant.
C'est inspirant, mais c'est complexe.
Mm-hmm.
Parce que là, tu sors complètement de la politique. Puis tu regardes l'humanité, puis tu te dis, où est-ce que ça s'en va, cette affaire-là? Est-ce qu'on est capable, comme être humain, de un jour vivre dans une paix, dans une durabilité, ou est-ce qu'on est juste trop fou pour s'auto-gouverner?
Mm-hmm.
Tu sais, y a bien des gens qui se posent cette question-là à la lumière de ce qui nous arrive en ce moment. Puis je trouve que la réponse de Gandhi, elle est non seulement spirituelle, mais elle est très, très orientée sur le fait que l'humanité doit vaincre un sentiment très précis, celui de la peur. La peur de l'autre, la peur des conséquences, même dans notre bonheur individuel, combien de personnes passent leur vie à pas faire ce qu'ils voulaient.
Mm-hmm.
Okay, parce qu'ils ont peur.
Je sens tabarnak, moi je suis humoriste. Là,
ouais. Combien de personnes laissent la peur déterminer une vie qui passe tellement vite?
Mm-hmm.
Donc, je sais pas comment on est arrivé à ça, mais dans les personnages les plus intéressants, Gandhi, la notion de peur, et le fait que Jacques Parizeau en a parlé beaucoup, dans le fait que c'est encore le plan de match. Ah oui, c'est ça, on parlait des camions de la Brinks, puis plein d'épisodes. Oui. La peur, c'est une vraie énigme. Comment sortir de la peur dans nos vies individuelles? Aller au bout de notre potentiel, de nos idées, même les plus improbables.
Ouais.
Comment retrouver une confiance en l'humanité à travers le fait qu'on n'a pas peur et donc on n'a rien à perdre à essayer que l'humanité fasse mieux que ce qu'elle a fait auparavant. On est vraiment là-dedans parce que moi, je sens beaucoup de peur d'insécurité avec la pandémie. Là. C'est vraiment ça. Là. C'est le sentiment de peur et d'insécurité qui a pris beaucoup d'espace.
Ah, puis aussi avec tout ce qui se passe dans le monde. Là,
Ça coupe les liens humains. Ça coupe la confiance.
Ah ouais, on le voit de plus en plus aussi. T'sais. Moi, je pensais que c'était juste au niveau de la communication. Hein, mais même au point de vue politique, il y en a qui ont, y ont de moins en moins être capables de se parler. Ça tombe vite en insultes personnelles. Ouais, fait que c'est de plus en plus difficile. Puis ça, moi, ça me fait peur. Mais je fais, Chris, c'est le monde qui nous dirige. Ils ont de plus en plus de la misère à jaser, à se parler. Tu sais, il y a des menaces qui se font. Tu sais, fait que...
Mais ça, il y a une explication plus précise, là. C'est vraiment que les médias sociaux ont, puis la logique commerciale dans l'information a complètement pris toute la place.
Oui, ça, les algorithmes, journée, comment ils sont faits.
La journée que c'est l'algorithme, puis le nombre de clics quand c'est un média, là,
le nombre de clics
sur l'article qui gouverne comment tu gères l'information politique.
C'est ça.
Écoute, moi, je pense pas que ça marche. Là. Ça marche pas à moyen long terme. Je sais pas comment on va en venir à bout. C'est que tu vas arriver dans une sphère politique où pour exister, faut que tu dises ce mot de trop-là. Parce que ça va générer un clic ou ça va exciter l'algorithme. Mais là, le dialogue devient complètement impossible.
Ouais.
Tu peux pas avoir un dialogue avec quelqu'un que tu viens d'insulter. Donc là, on le voit, là, c'est partout... la polarisation, les superlatifs, parce que c'est cette logique-là qui gouverne l'information. Et là, le pire là-dedans, c'est qu'au niveau de la santé mentale des gens, moi, j'ai des amis que je respecte sur le plan intellectuel, que je respecte sur le plan des valeurs et qui me disent, là, sans aucune hésitation, écoute, Paul, j'écoute plus les nouvelles. Plus capable. Pour me préserver sur le plan de ma santé mentale, j'ai arrêté de m'informer. Donc, si les politiciens, les médias, puis évidemment, je pense pas que Facebook va avoir une remise en question, là, mais si les médias sociaux, toutes ces sphères-là ne se remettent pas en question pour prendre conscience que là, on est en train de faire fuir tout le monde, puis que cette logique commerciale-là nous mène dans le mur parce qu'il n'y a plus d'intelligence, il y a juste des tomates puis des espèces de façons de se faire valoir avec des insultes ou je sais pas quelle niaiserie, si on prend pas conscience puis on travaille pas sur une réforme, moi, je le vois pas, là. Je vois pas où est-ce que ça s'en va. Il y a une détérioration dans plein de pays de la qualité des politiques publiques.
Ouais.
Puis c'est sûr que c'est lié avec ça. Donc, ça, c'est un autre sujet. Moi, j'ai pas peur de ça. Encore une fois, il y a des solutions.
Ouais.
Mais là, il faut commencer à en parler, là. Parce que moi, j'ai trop de témoignages autour de moi de gens que je me dis, s'il y a une personne qui est informée, c'est bien toi. Puis la personne, elle répond, moi, là, je suis plus capable.
Ouais.
Puis de mon point de vue, ben, ça m'empêche d'avoir le dialogue qu'on a toi puis moi aujourd'hui,
ben,
avec les lecteurs qui écoutent, et puis personne qui écoute.
Ben ouais.
Donc, on n'est pas à bout de trouver facilement toutes les solutions, mais ça vaut la peine qu'on en parle. Puis à nouveau, on est toujours mieux de choisir l'espoir puis la recherche de solutions que de choisir le pessimisme. Puis là, tout le monde rentre chez eux, puis attend quoi, tu sais? C'est tellement triste.
Ben ouais.
Donc, on va voir comment ça évolue.
Moi, je trouve que ça close bien le podcast d'aujourd'hui. Un gros merci au chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. Y a-tu de quoi que t'aimerais plugger ou t'aimerais dire si le monde veut te suivre ou le monde voit s'il y a de quoi que t'aimerais parler?
Non, on a vraiment parlé de l'essentiel. Donc, l'essentiel, c'est que si vous êtes indépendantiste puis si vous aimez la langue française, le Québec, faites-le savoir.
C'est ça, une année électorale.
Si vous êtes capable vous-même, de manière individuelle, de vaincre la peur, plusieurs choses peuvent se produire. Mais faites-le savoir.
Ouais.
Donc, à suivre.
Hey, un gros merci pour vrai. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde. It's the What's Up Podcast.
What's Up Podcast? What's Up Podcast? Avec Jeremy Allen.
Yeah. Boom, 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 boom.